En fait, ça fait combien d'années? Peut-être 13, peut-être même presque 14 ans qu'on est venu de l'Angleterre. Et pendant 2 ans, on faisait partie de cette église avant de vraiment se concentrer sur une implantation d'église à Montpellier. Donc, on apprécie énormément cette église. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Je vous donne les salutations de l'église La Source à Montpellier. Et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, je vais lire un petit passage. C'est pas très long. C'est 1 Corinthiens. Non, excusez-moi, c'est 2 Corinthiens 13. Et c'est vraiment la fin du chapitre. Versets 11 jusqu'à 13, 2 Corinthiens 13. Je vais juste prier aussi. Seigneur, je prie pour que tu nous aides avec la parole ce matin. Aide-moi à exprimer ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Mais je prie, Seigneur, aussi que tu nous aides tous à entendre la parole, de recevoir la parole, de la mettre en pratique, Seigneur, de vraiment assimiler ça, ta parole, vraiment dans nos cœurs, Seigneur. Donne-nous de l'aide de ton esprit ce matin, je prie, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je lis à partir de verset 11. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et ce que je veux focaliser sur ce matin, c'est que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Pendant mon adolescence en Angleterre, j'ai fréquenté une église anglicaine. Et souvent, ce verset a été lu à la fin du culte, un peu pour envoyer tout le monde, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je ne suis pas conscient que ça m'a fait un grand effet à l'époque. En fait, je fréquentais l'église parce qu'il y avait un groupe d'ados dans l'église, et en fait, qui était mené par un monsieur qui s'appelait the irate curate. Ça veut dire le curé irrité. Parce qu'on faisait tellement de bêtises dans leur rencontre de vendredi soir qu'il était toujours en colère. Et c'était pas vraiment. Ça marchait pas très bien de cette manière-là, mais bon, à la fin de chaque culte, c'était que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je n'étais pas croyant à l'époque, ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Mais c'est comme peut-être beaucoup de choses, beaucoup de phrases qu'on connaît de la Bible. Si on y réfléchit, si on y creuse un peu, il y a une telle richesse dans ce que Paul écrit ici. C'est écrit à une église qui n'allait pas très bien. Quelque part, mais il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc, on va un peu regarder ces trois choses. On va d'abord regarder la grâce du Seigneur Jésus-Christ et puis l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. J'espère que ça va nous aider ce matin. Donc, d'abord, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la première chose que je veux souligner par rapport à ça, c'est que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est en grec, c'est Kyrios, qui veut dire celui qui est suprême, celui qui détient de l'autorité. Ça veut dire maître, ça veut dire aussi quelque part propriétaire, celui à qui nous appartient. Lorsqu'on pense à la grâce du Seigneur Jésus-Christ, reconnaissant d'abord qu'il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je sais que c'est évident, vous le connaissez, mais c'est bon de nous rappeler parfois que vraiment Jésus est Seigneur. La Bible est claire que si on est chrétien, si on a donné notre vie à Jésus, nous appartenons à Dieu. C'est par exemple Romains chapitre 14, verset 8. Paul dit, si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Et c'est aussi en Corinthiens que Paul écrit, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Donc, on appartient au Seigneur. Si je suis chrétien aujourd'hui, ça veut dire qu'il est Seigneur, mais je suis sa propriété, quelque part. C'est une bonne nouvelle quelque part. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que j'appartiens à quelqu'un. Il y a un sens à ma vie. Il y a quelqu'un qui veut de moi. Ça, c'est encourageant. Ça, c'est beau. On veut que quelqu'un veut de moi. Jésus a voulu de nous. En fait, nous sommes quelque part un cadeau de Dieu le Père pour son Fils Jésus. On peut dire ça même théologiquement que nous sommes quelque part, nous appartenons à lui. On est précieux pour lui. Ça c'est le côté qui est vraiment super, qui est vraiment bon, qu'on apprécie énormément le fait d'appartenir à Dieu. Mais peut-être c'est un peu une épée un peu double tranchante d'un certain sens. Parce que de l'autre côté, ça veut dire que en fait, je n'appartiens plus à moi. Ce n'est pas forcément à moi de décider ce que je vais faire. J'ai un maître, j'ai quelqu'un à obéir dans ma vie chrétienne. Ça c'est le côté peut-être qu'on aime moins, le fait qu'on doit se soumettre. On doit se soumettre les uns les autres, mais on se soumet à Dieu, on se soumet à Jésus, parce que Jésus est Seigneur, c'est le Seigneur, et nous appartenons à lui. Je pense que ça c'est peut-être la chose qui est un peu plus difficile. Et ça veut dire que Jésus est Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui a l'autorité, qui doit nous diriger. Par exemple, en Éphésiens chapitre 1, c'est écrit, il a fait asseoir Jésus à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc Jésus est réellement Seigneur, il a toute autorité, il est tout puissant. Même si on a du mal à l'obéir maintenant, il faut savoir qu'à la fin, toute chose sera réunie en lui. Qu'à la fin, il a de toute façon toute autorité. Mieux quelque part se soumettre à lui maintenant que devoir le faire à la fin. Parce que finalement, c'est lui qui a l'autorité. Toutes les choses vont être résumées, accomplies en lui quelque part. Il est notre Seigneur. Mais il est notre Seigneur dans le quotidien. Dans la vie de chaque jour. Je pense que c'est important de reconnaître ça. Et si on est jeune chrétien, si on est jeune dans la foi, même si on n'est pas jeune dans la foi, il faut reconnaître qu'on a un Seigneur, qu'on soit clair là-dessus. Parce que parfois on est tenté, parfois on est tiraillé, parfois il y a des choix à faire dans la vie et c'est plus facile à faire quelque chose qui n'est pas forcément bon, qui n'est pas forcément ce que Dieu veut pour ma vie. C'est plus, je peux tricher un tout petit peu avec l'argent, je peux tenter peut-être une relation un peu trop proche avec quelqu'un. Je peux être tenté d'être méchant avec ma femme ou de me déferler avec de la colère sur quelque chose. Mais Jésus est Seigneur, Jésus est mon Seigneur, Jésus veut que je vive autrement. Et nous avons un chef, nous avons quelqu'un à qui on se soumet. Parfois lorsqu'on est jeune chrétien, c'est bien d'être clair là-dessus, parce que parfois, il y a des tentations. Parfois, on est tiraillé. Et c'est vraiment clair. On a un chef. Si tu choisis de faire ce que Dieu veut pour toi, tu seras béni. Ce sera la meilleure chose. Dieu est plus sage. Il y a plein de bonnes raisons pourquoi il faut faire ce que Dieu nous dit dans sa parole, ce que Dieu nous dirige à faire dans chacun de nos vies. Ça a du sens, mais on a la chair. On a cette tentation toujours, cet esprit un peu de rébellion qui est en nous, en chacun de nous. Mais reconnaissons que même si on ne comprend plus que c'est bien, c'est la bonne chose, qu'on a quand même un chef. Et il faut quand même obéir à notre chef. Jésus est Seigneur. C'est important. C'est une fondation pour nos vies. Une autre fondation pour nos vies que je trouve dans cette petite phrase, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Quelque part, ça équilibre un peu ce que je viens de dire. C'est on est sauvé, comme Farid nous a fait souvenir ce matin, on est sauvé par la grâce. Ce n'est pas par nos efforts. C'est Jésus qui a payé notre dette. Et c'est ça qui nous rend en relation avec nous. Par exemple, Romains chapitre 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et un verset que, en fait, Farid vous a déjà lu ce matin, Éphésiens chapitre 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, excusez-moi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. C'est-à-dire que on est sauvé par la foi, on est sauvé par notre foi en Jésus. Mais même cette foi que nous avons en Jésus, ça vient de la grâce de Dieu. Quelque part, à l'origine de notre relation avec Dieu, il y a Dieu. Ce n'est pas juste qu'à l'âge de 18 ans que Stuart Radley, un petit ado anglais, jeune adulte anglais à l'université, a donné sa vie à Jésus. À l'époque, je croyais avoir choisi de suivre Jésus. J'en étais peut-être un tout petit peu fier que j'ai pris cette décision. J'ai finalement intellectuellement regardé les pour et les contre et je suis tombé sur le pour et je suis devenu chrétien. J'étais assez focalisé sur ça. Je devais donner mon témoignage en tant que jeune chrétien de 4-6 mois et le curé qui écoutait mon témoignage a dit « Oui, c'est bon », qui en anglais veut dire « c'est pas très bon du tout hein? ». Et il est « Oui, mais ce serait bien d'entendre un peu plus de par rapport à ce que Jésus a fait dans ton témoignage. » Et j'étais très focalisé sur le fait que j'ai fait un choix. Mais quelqu'un a dit que la vie chrétienne, c'est un peu comme une arche triomphale. On en a à Montpellier, avec d'un côté la dame française qui écrase le lion anglais avec son pied. c'est là, c'est sur l'arche à Montpellier. Ça, c'est pour rendre les Anglais un peu plus humbles, pour qu'ils connaissent leur place un peu dans la ville. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais la vie chrétienne, c'est comme une arche comme ça. Et lorsqu'on on s'approche à la vie chrétienne, c'est écrit quelque chose comme « Tout le monde peut être sauvé, il faut mettre ta foi en Jésus ». Et lorsqu'on traverse l'arche, lorsqu'on va plus loin et on regarde en arrière, de l'autre côté, c'est écrit « Tu as été choisi avant la fondation du monde. Tu as été choisi depuis toute éternité. » Et ça, c'est la vérité. On est sauvé par la grâce. Si on est là, oui, on a pris un choix d'être là. On a pris un choix de devenir chrétien. Mais le plus qu'on avance, on sait que ça ne dépendait pas de nous. Ça dépendait de ce que Dieu a fait. C'est Dieu qui nous a attiré vers lui. C'est Dieu qui nous a appelés à le suivre. Et c'est important de reconnaître ça. Pourquoi avoir cette fondation de la grâce dans nos vies est tellement important? Parce que, quelque part, si on reconnaît ça, quelque part, Dieu devient très grand dans notre compréhension et nous devenons plus petits dans notre compréhension. Si je pense que ma vie chrétienne, ça dépend de ce que j'ai fait, tous mes efforts, le fait que j'ai pris un choix, c'est moi qui est en avant. Mais lorsque je reconnais, c'est par grâce que je suis sauvé, Dieu, il est grand. Dieu, il est vraiment grand. Ça nous aide dans la louange. La louange a du sens lorsque je reconnais que mon salut, ça dépend de Dieu, ça dépend de ce qu'il a fait. Il est digne de louange. J'ai envie de le louer parce que ça vient de lui, ça vient pas de moi. Ça nous donne de bonnes motivations pour servir Dieu. L'apôtre Paul a dit, j'ai travaillé plus dur que les autres, mais pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Et quelque part, ça devient moins un fardeau de travailler pour Dieu, de faire quelque chose, de servir dans l'Église. Parce que pourquoi je le fais, c'est est-ce que c'est pour que je sois un bon chrétien, que je sois reconnu par les autres, parce qu'il faut le faire? Non, je fais par reconnaissance, parce que je suis sauvé par grâce. Quelqu'un m'a aimé, quelqu'un m'a cherché, et c'est pour ça. Je pense que la grâce de Dieu, ça enlève la pression qu'on met sur nous-mêmes parfois dans nos vies. Tu sais que parfois, la personne la plus exigeante pour chacun de nous, c'est pas Farid, non maman, c'est pas même ma femme. C'est peut-être moi-même. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous met sous une pression. Mince, je n'ai pas prié pendant une heure aujourd'hui. Je suis vraiment nul comme chrétien. On a un ennemi, on a un accusateur, n'est-ce pas? On a un ennemi spirituel, un accusateur qui veut nous faire tomber dans la culpabilité, dans le sentiment de « je ne suis pas à l'auteur ». J'y arriverai pas. Je suis vraiment chrétien nul. Ce n'est pas la peine d'aller à l'église ce matin parce que tu étais tellement méchant hier que il ne vaut pas la peine. On a tout ce genre de découragement. On est parfois trop dur sur nous-mêmes. Mais la grâce de Dieu, ça enlève la pression sur nos vies. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ça nous fait rappeler qu'on est sauvé par quelqu'un d'autre, qu'on appartient à quelqu'un d'autre. Que quelqu'un d'autre a pris l'initiative. Quelqu'un d'autre va finir ce travail qu'il a commencé en nous. Il va l'achever jusqu'au jour qu'il revient. On sera changé. Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies. La grâce de Dieu n'est pas juste une chose qu'on lit dans la Bible qui est arrivée lorsque Jésus est mort à la croix. Non, la grâce de Dieu, c'est aussi, en fait, quelque part, l'aide de Dieu continuelle pour chacun de nous dans tous les jours de notre vie. Notre marche avec Dieu. Dieu a de la grâce pour toi aujourd'hui. Dieu a de la grâce pour toi qui sera de nouveau demain matin lorsque c'est lundi, lorsqu'on doit faire face à plein de choses. La grâce de Dieu est toujours là. La grâce, c'est quelque part l'aide de Dieu, l'effort de Dieu, le souffle de Dieu qui vient dans nos vies, même chaque jour en tant que chrétien. Et c'est bon de vivre dans cette grâce. Donc, et c'est bien pour ça que Paul dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc, deuxième chose qu'il dit, deuxième petite phrase, c'est l'amour de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu soient avec vous tous. Donc, on va réfléchir un peu à l'amour de Dieu. Donc, je pense que, si je trouve le verset, je suis perdu comme j'ai été perdu sur la sortie de l'autoroute ce matin. Pour récompense, j'ai vu Remoulin. Et heureusement, je n'ai pas vu Avignon parce que sinon... L'amour de Dieu, j'ai tourné une page trop. Jésus dit, Jean chapitre 17, verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Jésus dit, parle pour son père. Il est en train de prier avec son père. Il parle de la gloire que Dieu va lui donner, parce que Dieu l'aime, il veut lui donner de l'honneur et la gloire. Et puis il dit, que tu m'as donné avant la création du monde. Et je pense que, je ne sais pas si vous réfléchissez parfois à la Trinité de Dieu, le fait qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Jésus, le Trois, qui sont un, qui sont égaux, qui sont chacun entièrement, complètement Dieu, mais qui forment un seul Dieu. Et on dit, je ne comprends pas ça. Mais il y a une raison, il y a une bonne raison pourquoi il faut qu'il y ait une Trinité en Dieu. C'est parce qu'avant la fondation du monde, avant que toutes les autres choses aient été créées, il y avait quelque part une communauté en Dieu. Et quelque part, l'amour existait déjà avec Dieu, vraiment au début. S'il y avait juste un seul Dieu, une seule personne, une seule entité, comment l'amour pouvait exister? Mais en fait, dans la Trinité de Dieu, le Père aime le Fils honore, aime le Père, ils aiment le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est un Dieu d'amour. En Jean 4, c'est écrit « Dieu est amour ». Et ça, c'est depuis l'éternité, depuis tout le temps, même avant que nous avons été créés. L'amour a existé dans la Trinité de Dieu. Donc, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, je pense qu'en tant que chrétien, parfois on pense, je sais que Dieu est bon, on prie pour quelque chose dans notre quotidien, on a des réponses à la prière, comme on a entendu tout à l'heure, qui en sont super bien, et on dit, oui, c'est super, Dieu m'aime, c'est une preuve de l'amour de Dieu pour moi. Mais je veux dire que quelque part, l'amour de Dieu, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que ça. Parfois, on a un point de vue limité sur l'amour de Dieu. Le danger avec un amour, une compréhension de l'amour de Dieu qui dépend un peu de ce que nous vivons actuellement, c'est que lorsqu'on traverse les difficultés, lorsqu'il y a la déception, lorsque les plans ne s'achèvent pas, lorsqu'il y a une perte, lorsqu'il y a un deuil, lorsqu'il y a une maladie ou quelque chose, on est bouleversé. On est ébranlé par ça. Mais l'amour de Dieu est beaucoup, beaucoup plus grand. L'amour de Dieu a existé avant la création de toutes choses. L'amour de Dieu a été né et dans la Trinité de Dieu depuis tous les temps. Et c'est quelque chose d'énorme et c'est très grand. Et bien sûr, l'amour de Dieu nous est montré dans l'Évangile. Par exemple, 1 Jean chapitre 4, verset 10, c'est écrit « Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui a pris le premier poids, qui nous a aimés les premiers. Comme on a lu, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Paul dit en Galates chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Donc on a l'amour de Dieu qui est montré dans ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. L'Évangile, c'est une preuve de l'amour de Dieu pour moi. Comme on a lu tout à l'heure en Éphésiens, on a été rachetés. C'est comme nous étions dans le marché des esclaves et quelqu'un est venu payer pour nous. Donc, ils auraient payé un prix plus grand pour Farid parce qu'il est plus jeune que moi. J'ai fait un peu plus de kilomètres que lui. Mais on est racheté, c'est-à-dire qu'on valait rien, on valait quelque chose, mais on était dans l'esclavage et Dieu est venu, c'est comme Jésus est venu, il a payé notre dette et maintenant nous appartenons à lui. C'est l'amour de Dieu. Il a payé pour nous. Il nous a achetés. C'est l'évangile qui parle du fait que c'est lui qui nous a aimés le premier et nous sommes maintenant sauvés, nous sommes maintenant pardonnés, nous sommes ses fils. Ça, c'est une preuve de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Mais lorsque Paul dit que l'amour de Dieu soit avec vous, je pense que aussi c'est dans le sens que oui, on comprend, on expérimente, on connaît l'amour de Dieu, mais aussi nous sommes appelés à refléter cet amour de Dieu. Nous sommes appelés à aimer les uns les autres. La Bible est très claire par rapport à l'amour les uns pour les autres. Par exemple, Matthieu chapitre 22, Jésus a répondu à un pharisien, je pense, ou à un docteur de la loi. Il dit, tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc on est appelé à aimer Dieu de retour. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On est appelé à aimer nos prochains. Nous sommes même appelés à aimer nos ennemis. C'est Matthieu 5 où Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Ça c'est facile, ça c'est clair. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin d'être les fils de votre Père céleste. Aimez vos ennemis. Et je pense que l'amour, ça se manifeste par la bonté, la miséricorde envers les autres, le pardon des autres. Ça se montre par une attitude humble envers les autres. Ça se montre par la patience envers les autres. Ça, ce n'est pas toujours facile, la patience envers les autres. Ça se montre par une recherche de l'intérêt de l'autre au lieu de mon propre intérêt. On est appelé à refléter cet amour de Dieu. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il se porte tout. Nous sommes appelés à refléter, à montrer aux autres, à montrer les uns les autres, montrer au monde à l'extérieur, à montrer même à nos ennemis l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, c'est quelque chose de tellement grand. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui est là depuis avant la création, avant les Français, avant les Anglais. Il y avait l'amour de Dieu, l'amour en Dieu, dans la Trinité de Dieu. Et cet amour, on peut connaître cet amour. Vous savez peut-être qu'il y avait un évangéliste qui s'appelait Dwight Moody dans le 19e siècle aux États-Unis. Au début de son ministère, il a eu une expérience avec Dieu et il a eu une révélation de l'amour de Dieu et il a dû dire à Dieu, arrête s'il te plaît, parce que tellement cette expérience avec de l'amour de Dieu pour lui était trop, trop, trop. Et peut-être si aujourd'hui vous avez du mal à peut-être reconnaître, recevoir cet amour de Dieu, il faut savoir que la Bible dit que, Romains 5, 5, que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Moody avait une révélation par le Saint-Esprit, je pense, de l'amour de Dieu. Et on peut grandir dans cet amour. Toi, moi, nous pouvons avoir une révélation encore plus grande de l'amour de Dieu. Parfois, on est trop occupé, on est trop chargé, on ne réfléchit pas à ces choses. Mais peut-être demande à Dieu qu'il nous révèle plus de son amour. Lorsque Paul prie en Éphésiens, il prie pour que l'Église, pour que les croyants connaissent la profondeur, la largeur, la grandeur de l'amour de Dieu. C'est important que nous soyons enracinés, fondés dans l'amour de Dieu et que nous ayons cette révélation de l'amour pour chacun de nous personnellement. que nous soyons, que vous soyez remplis de cet amour de Dieu, que nous connaissions cet amour de Dieu. C'est une fondation pour nos vies. C'est quelque chose qui nous gardera. C'est quelque chose qui nous aidera à tenir pour le long terme. C'est quelque chose qui peut nous aider à traverser les moments vraiment, vraiment difficiles de la vie. Et finalement, on parle, troisième partie de cette bénédiction de Paul, c'est la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Et ça me parle d'abord d'une chose, une évidence, c'est que c'est la communion du Saint-Esprit. Ça veut dire que ça me rappelle que le Saint-Esprit, c'est une personne. Parfois, on pense que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui existe dans certaines églises et pas des autres. Ça, c'est pas très biblique. Mais peut-être on pense que, en fait, le Saint-Esprit, c'est une force ou c'est une expérience ou c'est quelque chose qu'on ressent, c'est une chaleur, c'est une expérience. Mais le Saint-Esprit, selon la Bible, c'est la troisième personne de la Trinité, c'est une personne. C'est une personne. Et la Bible nous dit des choses un peu surprenantes par rapport au Saint-Esprit. Par exemple, Paul dit en Éphésiens chapitre 4, verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Et le verset avant, ça dit « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles en fonction des besoins. » Mais n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Le péché dans nos vies, les paroles malsaines, les commérages, les paroles difficiles, les paroles dures, une attitude de cœur qui n'est pas bienveillante, ça peut attrister le Saint-Esprit. C'est une personne. Il vit en nous. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On peut l'attrister. Si je suis dans l'immoralité sexuelle, si j'abuse quelque part mon corps avec les choses que je ne devrais pas, quelque part j'abuse le temple du Saint-Esprit et quelque part j'attristerai le Saint-Esprit. Donc il peut être attristé. Le Saint-Esprit peut aussi être éteigné. Excusez-moi. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, c'est verset 19, c'est très court. N'éteignez pas l'esprit. Ne faites pas clac. J'éteins la lumière, j'éteins le Saint-Esprit. Il ne précise pas comment on éteint le Saint-Esprit, mais je pense que aussi, si on a du mépris pour l'œuvre du Saint-Esprit, il dit qu'il ne faut pas mépriser les paroles prophétiques, il faut quand même cultiver la vie de l'esprit dans l'Église. On peut éteigner le Saint-Esprit, on peut ne pas vraiment vivre tout ce que le Saint-Esprit veut nous apporter parce qu'on l'a éteint, on a un peu ignoré ça, on peut-être pas notre cynisme, peut-être pas notre lassitude, mais n'éteignez pas le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit peut partir selon la Bible, ça devient encore plus dur. Samson, il a perdu le Saint-Esprit. Et on peut parler du roi Saul dans l'Ancien Testament qui avait l'onction du Saint-Esprit, mais qui a perdu l'onction du Saint-Esprit. David prie, psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de toi et ne me retire pas ton Esprit Saint. » C'est une personne, il veut être avec nous. Il faut l'accueillir, il faut cultiver cette relation avec lui. Le Saint-Esprit, il est saint, il est pur, il est doux, il est le colombe, mais aussi le feu. Et surtout pas, il ne faut pas mentir au Saint-Esprit, comme Ananias en Actes chapitre 5. Il est tombé raide mort à cause du fait qu'il a menti au Saint-Esprit, selon l'apôtre Pierre. Le Saint-Esprit est puissant, il est Dieu, il est digne, mais c'est un énorme privilège que dans mon petit corps, le Saint-Esprit existe. Le Saint-Esprit, la troisième personne de Dieu, vient habiter en moi. C'est un privilège. Ça me donne une dignité, ça me donne un « oula » quelque part, de respecter, de honorer Dieu avec mon corps, de honorer Dieu dans tous les aspects de ma vie parce que le Saint-Esprit vit en moi. Et cet esprit, il peut nous apporter l'amour de Dieu. Cet esprit, il peut nous donner le pouvoir de vaincre le péché. Il peut nous donner la capacité de tenir bon. Et nous avons besoin d'acquérir personnellement le Saint-Esprit. J'ai parlé avec... j'ai deux très vite témoignages. J'ai un ami qui passe par une période difficile dans sa vie. Et sa femme, lui, il est baptisé du Saint-Esprit. Il a eu une expérience du Saint-Esprit il y a des années, mais sa femme, ça n'était pas le cas. Et elle est chrétienne, mais elle n'a pas vraiment vécu une expérience de puissance avec le Saint-Esprit. Elle n'avait pas les dons du Saint-Esprit. Et pendant cette période difficile, sa femme déposait son enfant à la salle de sport. Elle était en train d'écouter une prédication sur le baptême du Saint-Esprit sur ses écouteurs à l'extérieur de la salle de sport. Elle écoutait ça. Elle est vraiment entrée dans la prédication quelque part. Elle commence à prier en langue. Et ce que mon ami m'a dit, que depuis, ça date de depuis quelques mois maintenant, sa femme, elle est transformée. Sa femme, elle est changée. Et il a dit que le lendemain, sa femme, qui est d'habitude de caractère assez timide, elle est allée au travail, elle a témoigné à plein de gens au travail. Et ça, c'est tellement biblique, ça. C'est le Saint-Esprit qui l'a donné la confiance, la force de le faire. Et dans cette période difficile, c'est vraiment sa femme qui est le rocher dans le mariage. C'est elle qui tient, c'est elle qui l'encourage à prier, c'est elle qui l'encourage à tenir bon dans tout cela, parce qu'elle a reçu cette expérience du Saint-Esprit. J'ai parlé aussi avec, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Paul Ruff, qui est de l'église New Ground au Havre. Donc il déménage dans le sud. Et on a mangé avec lui. Et il m'a raconté comment pendant la période de Toronto, lorsqu'il y avait le Saint-Esprit était déversé, il est allé à Toronto pour voir. Et puis il est entré dans la salle et à la fin de la prédication, quelqu'un qui dirigeait disait, lorsque je ferme ma Bible, le Saint-Esprit va tomber. Ça me semble un peu bizarre, ça, que je ferme la Bible, le Saint-Esprit, mais bon, voilà. Mais il a fait ça, et Jean-Paul a dit que dès qu'il a fait ça, il est sauté de l'autre côté de la pièce. Et puis il est tombé par terre et il ne pouvait plus bouger pendant des heures, des heures, des heures, des heures. Dieu travaillait son cœur profondément. Je pense qu'il est converti dans une église très légaliste, je pense, Jean-Paul Ruff. Il n'est pas du tout légaliste maintenant, je peux vous le dire. Je pense que quelque part le Saint-Esprit a balayé tout ça de lui. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a eu une expérience forte du Saint-Esprit. Et en parlant avec lui, je me dis, bon, je pense que de nos jours, peut-être ça manque un peu. Je vois les jeunes adultes dans notre église, ils n'ont pas peut-être forcément vécu des expériences très fortes, très profondes dans le Saint-Esprit. J'ai vécu des choses avec le Saint-Esprit fin années 80, début années 90, qui m'a beaucoup marqué, qui a toujours un impact sur ma vie maintenant. On a besoin d'une expérience du Saint-Esprit. On a besoin que le Saint-Esprit travaille en nous. En tant qu'Église, on a besoin de ne pas éteindre la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de cette puissance. Nous devons le rechercher. Luc 11 nous encourage à demander, chercher et tu vas recevoir. Et à la fin, c'est Dieu va donner le Saint-Esprit. D'autant plus, si on est des pères, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, d'autant plus Dieu, le Père, va nous donner le Saint-Esprit. On a des promesses de recevoir le Saint-Esprit. Je veux aussi juste, en conclusion, un peu par rapport à ça, c'est que la communion du Saint-Esprit, ça peut être quelque chose de personnel, mais c'est aussi quelque chose de corporel. C'est quelque chose à vivre dans l'Église. On a besoin des dons du Saint-Esprit. Est-ce qu'en venant au culte le dimanche matin, tu pries et tu dis, Seigneur, donne-moi quelque chose pour l'Église? On a dans notre Église un petit problème, il y a trop de monde qui vient le dimanche matin, non pas trop de monde qui vient, mais trop de monde qui vient et qui veut prier leur petite prière le dimanche matin. Ok, c'est bien, j'aime bien que les gens prient, mais ils prient leur prière. mais ils ne sont pas venus avec cet esprit de réfléchir qu'est-ce que Dieu veut que j'apporte pour les autres ce dimanche. Qu'est-ce que Dieu me donne par le Saint-Esprit pour le bien des autres? Les dons sont donnés à l'Église pour les autres, pour nous tous. Donc, je vous encourage, en venant à l'Église, priez pour que Dieu te donne, priez pour que Dieu vous donne quelque chose à partager avec les autres, quelque chose à apporter, pas forcément pour vous-même, pas forcément que vous avez fait votre prière devant tout le monde dans l'Église, mais pour le bien de l'Église. C'est ça, les dons de l'Église. Et je pense que, aussi, je veux terminer avec un verset en Apocalypse, chapitre 22, verset 17, qui dit « L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est l'Église et c'est le Saint-Esprit qui dit au monde, aux gens dans le monde, « Venez, venez, venez boire, recevoir cette eau de vie, recevoir cette vie qui est là en Jésus. » Et le Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit, c'est aussi dans l'évangélisation, c'est aussi dans notre témoignage, c'est aussi dans l'annonce de l'Évangile pour notre ville, pour les villes autour. C'est le Saint-Esprit et l'Église, l'Épouse et le Saint-Esprit qui travaillent ensemble pour que les gens puissent venir, puissent entendre la bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc, on va juste relire le verset. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous tous. Amen. Amen. Peut-être on a le temps de prier un moment. Peut-être on peut se lever. On va juste prendre un moment. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire, mais on verra. J'avais juste le sentiment en priant qu'il y avait... quelqu'un ici peut-être qui n'a jamais réellement eu le sentiment d'être aimé par personne. Et quelque part tu as une carapace pour te protéger. Et peut-être tu as un peu peur de recevoir l'amour de Dieu parce que tu penses qu'il va venir juste casser la carapace. Mais ce n'est pas le cas. Je pense que Dieu veut te dire qu'il veut que tu connaisses cet amour de Dieu qui vient vraiment dans votre cœur, de l'intérieur. Dieu veut que tu connais vraiment son amour. Ouais. Peut-être on peut juste prier. J'aimerais bien qu'on prenne un moment. Peut-être si ça te parle, tu peux venir, on peut prier pour toi. Mais j'ai envie aussi de prier peut-être pour ceux qui veulent connaître plus de cette communion du Saint-Esprit. Plus de la puissance du Saint-Esprit. C'est aussi le Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc j'aimerais bien qu'on prenne juste un moment pour ceux qui veulent recevoir la prière, que vous pouvez avancer. On va prier pour vous. On va juste prendre un moment. Seigneur, je prie pour que tu viennes maintenant, Seigneur, que tu touches chacun nos cœurs, Seigneur. Je prie pour une révélation de l'amour de Dieu dans chaque cœur ici, ce matin, Seigneur. Seigneur, je prie pour cette Église, que cette Église vive réellement, puissamment, une communion avec le Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens puissamment sur chacun de nous, Seigneur. Viens sur ton Église, Seigneur. Viens toucher les vies, Seigneur. Viens nous transformer. Viens nous faire connaître l'amour du Père. Viens pour ceux qui sont loin de toi, Seigneur, touche leur cœur, amène-les de nouveau à toi. Tu les aimes. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Merci.